Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Billy Van Likimba.
Les accrochages dimanche et lundi dernier de la coalition FDLR-Mia Tour avec des combattants Maïma et les FRDC ont causé 20 tués et 5 blessés dans 3 villages du groupement Mutanda dans la chefferie de Buito à Rutshuru. Bilan revu donc à la hausse. La mort de Rossi Mukendi tué le dimanche 25 lors de la marche suscite des nouvelles réactions. 3 mouvements citoyens réclament que justice soit rendue et que des obsèques dignes soient organisées à son honneur. Vous suivrez dans la deuxième partie de ce journal. L'archevêque de Mbandaka Bikoro Fridolin Ambongo exprimant sa colère à la suite de la répression sanglante de la marche des chrétiens catholiques de dimanche dernier. Ce sera après notre dossier qui reviendra sur les tueries en territoire des Rutshuru. Bienvenue et bonsoir à tous. D'abord, ce naufrage d'un convoi des baleinières la nuit vers 23h juste près d'Epulu. C'est à au moins 40 km de Kwamout dans la province de Maïndombe. Selon le député national Didas Pembe qui livre cette information, environ 500 personnes à bord seraient portées disparues. L'élu de Mouchi demande l'intervention du gouvernement central non seulement pour un apport des soins et l'assistance nécessaire aux naufragés, mais surtout retrouver les disparus. Écoutez Didas Pembe au micro d'Inonsa Oling.
Il y a un convoi de 3 baleinières attachées. Ce convoi a quitté la ville de Mouchi et arrivé au niveau de Kwamout à 17h alors qu'il devait accoster. Apparemment, ce convoi aurait eu l'autorisation de marin pour pouvoir quitter et naviguer nuitamment. Aux alentours de 23h, à 40-50 km de Kwamout, principalement au niveau du village Epulu, ce convoi de baleinières a connu un vent violent ainsi qu'une pluie, une forte pluie. C'est ainsi que dans ce convoi qui comptait, selon les premières informations, 500 personnes à bord. Selon les dernières informations en ma possession, une toute petite partie, c'est-à-dire les rescapés, on les aurait retrouvés du côté de Brazzaville. Une toute petite partie aussi de rescapés serait du côté de Epulu. Mais la grande partie des passagers sont portés disparus. Donc, c'est pour vous dire que la province de Maïndombe, principalement le territoire de Mouchi, est meurtri à travers ce naufrage.
Et maintenant, Nord Kivu, au moins 20 morts, dont 13 civils, ainsi que 5 blessés. C'est le bilan actualisé des 3 attaques successives dimanche et lundi de 3 villages du groupement Mutanda par des combattants d'une certaine coalition FDLR Nyatura. Ce sont les villages de la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Les sources administratives locales disent que ces combattants Nyatura se sont affrontés au Maïmaï, au nord de Mutanda et au FRDC, dans le village Buandanda. Bernard Nyangi pour plus de détails.
Ce sont d'abord les villages de Kalusi et Kanyasi, occupés par les Maïmaï, qui ont été les premières cibles des attaques de Nyatura dimanche matin, d'après nos sources. Là, au moins 9 civils auraient été tués dans leur champ, et 2 Maïmaï seraient tués. Les Nyatura se sont par la suite affrontés avec les Mazembe avant de se replier vers Mirangi. Lundi, c'est Bualanda qui sera la cible de l'attaque des mêmes Nyatura coalisés au FDLR, aux environs des 6 heures locales, tuant et blessant des personnes rencontrées sur leur chemin. Selon le fonctionnaire délégué du gouverneur à Bualanda, 4 civils ont été tués et 5 autres blessés, alors que dans la défensive des FRDC, 5 assaillants ont été aussi tués. Les autres ont dû se replier. Quant aux habitants de Bualanda qui ont fui, ils regagnent petit à petit le village ce mardi où ils ont commencé à enterrer leurs morts. Ces attaques récurrentes, depuis plus de 2 semaines, en groupement Mutanda dans le Buito, menacent de plus en plus les efforts de paix entrepris dans cette zone, affirment nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
D'autres morts, c'est en Ituri. 3 morts, plusieurs cases incendiées et des biens pillés. Tel est le bilan d'une nouvelle attaque d'hommes portant d'armes blanches et à feu à Tchélé, un village situé à environ 55 km au nord de Bounia, en chefferie de Ndo, au Kébo, dans le territoire des Djougou. Des sources de la police indiquent que ces attaques ont eu lieu dans la nuit de lundi à ce mardi. Les assaillants seraient venus de Paoulélé, un village voisin. Jean-Claude Loki explique.
C'est aux environs de 0 heure que des hommes munis d'armes blanches et de fusils ont envahi le village de Tchélé. Surpris par des tirs nourris, les habitants ont fui dans tous les sens. Certains ont pris la destination de Mabanga, d'autres se sont dirigés vers Nizi, alors que plusieurs autres ont pris carrément le chemin de Bounia. Derrière eux, les assaillants se sont livrés au pillage systématique du centre commercial de Tchélé. Ils ont apporté plusieurs biens, selon un notable de Ndo Kebo. Dans la foulée, trois personnes ont été sauvagement abattues à la machette. L'une des victimes était un assaillant tué par des jeunes qui ont tenu tête aux agresseurs pendant un laps de temps. L'occupation de cette entité a duré plusieurs heures, selon ce même notable. L'administrateur du territoire de Ndjougou, Alfred Bongalanga, affirme que la police et l'armée se sont déployés sur terrain pour rétablir l'ordre. Le mobile de cette attaque n'est pas encore connu. Bounia, Jean-Claude Lokilile, Radio Okapi.
Mais scène presque similaire, toujours en Ituri. Un mort et un blessé, bilan d'une attaque d'hommes armés identifiés aux miliciens des FRPI à Kagouma, ville située à 45 km au sud de Bounia, en territoire d'Iromo. C'était la nuit du lundi à ce mardi. Selon le conseil de la jeunesse de Walendu Bindi qui livre l'information, les victimes se trouvaient dans leur maison au moment de l'attaque. Ce qui porte à 3 le nombre des personnes tuées, dont un militaire, en l'espace de moins d'une semaine dans cette région. Information confirmée par le chef intérimaire de Walendu Bindi. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Des dizaines de présumés de miliciens du FRPI se sont introduits à Bougouma dans les groupements ado vers 20h à tireur des coups de feu. Selon le président du conseil de la jeunesse de la chefferie de Walendu Bindi, ils ont ensuite commencé à tirer des coups de feu dans toutes les directions en faisant les porte-à-porte. D'après toujours la même source, ces miliciens ont tiré à bout portant sur un homme d'une trentaine d'années, elle verte et son état dans sa maison. Avant de se retrancher dans la brousse, ces assaillants ont blessé par balle une autre personne toujours dans sa maison, indique la même source. Information confirmée par le chef intérimaire de Walendu Bindi. Jérôme Maguru s'est rendu ce matin sur le lieu d'attaque pour s'acquérir de la situation. Ces cas de meurtre s'ajoutent à deux autres enregistrés le jeudi passé à Tradadi et Singodé, dans la même entité où un militaire a perdu sa vie dans un affrontement avec le milicien. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole des FARDC à Nitori sur cette attaque. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous en venons à ces réactions après la marche du dimanche 25. Les jeunes des mouvements citoyens Cocorico, Il est temps et Bisso Peuple dénoncent l'assassinat de leur compagnon de lutte et co-marcheur aussi Mukendi, tué lors de la marche pacifique organisée le dimanche 25 février par le comité laïque de coordination, le CLC. Ils réclament que justice soit faite et chargent l'auditorat militaire de se saisir de l'affaire, étant donné que les auteurs sont connus. Ils l'ont dit dans une déclaration commune à la presse ce mardi à Kinshasa. Je vous propose l'extrait de cette déclaration faite par Gloire Wachipa, coordonnateur du mouvement citoyen Cocorico, au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous recommandons ce qui suit. Aux autorités étatiques, que l'auditeur militaire supérieur se charge de cette affaire, car c'est si relevant de sa compétence. Car nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que la justice soit faite, étant donné que les auditeurs sont connus. Que notre camarade puisse recevoir les obsèques dignes d'un militant citoyen. Aux jeunes Congolais et des mouvements citoyens, convergeons nos forces pour revendiquer la justice, car la police a tué un membre de mouvement citoyen et que ce crime ne doit jamais passer. Nous militerons avec détermination jusqu'à ce que soit instaurée la vraie alternance démocratique. À la communauté internationale, la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres tels que la Chine et la Russie, dont le flou et le double jeu avec le pouvoir de Kinshasa persistent, nous demandons de ne pas jouer un double jeu et alertons sur la situation d'insécurité des membres de sa famille, dont son frère, et de menaces à l'endroit de membres de mouvements citoyens, témoins de ce fait, qui vivent actuellement une situation de clandestinité dans un climat de terreur suite aux diverses intimidations et menaces faites à leurs endroits concernant cet assassinat.
Concernant toujours ces manifestations du dimanche, la répression sanglante de la marche pacifique des chrétiens catholiques dimanche dernier à Mbandaka a été hier au centre des entretiens entre l'archevêque de Mbandaka Bikoro et les autorités provinciales de l'Équateur. Monseigneur Fridolin Ambongo, selon ses propres termes, a voulu exprimer avec les curés de toutes les paroisses catholiques de Mbandaka la colère de l'Église catholique après la répression de la marche qui a coûté la vie à un fidèle de 18 ans, tué par balle par un policier. Le gouverneur de province Bobo Boloko, tout comme le commissaire provincial de la police, dit-il, ont affiché profil bas. Ils ont demandé pardon pour ce qui s'est passé dimanche à Mbandaka. L'archevêque de Mbandaka Bikof, Dolé Mbongo, qui est aussi vice-président de la SENCO et archevêque co-adjuteur de Kinshasa, s'exprime au micro de Dominique Olombi-Mongapangé à l'issue de sa rencontre avec les autorités provinciales.
Ma conscience de pasteur avec tous les clergés de Mbandaka Bikoro nous a poussé d'aller échanger avec ceux que nous avons retenus comme les responsables de cette situation, le gouverneur et le général commandant de la police.
Quelle a été leur réaction?
Côté du gouvernorat, c'était pratiquement la désolation. Ils étaient désolés pour la perte en vie humaine.
Quel cri vous lancez à l'endroit de la communauté internationale?
Premièrement, c'est d'abord à l'endroit des autorités du pays. Que ce qui s'est passé hier ne se répète plus. Plus jamais que le sang des fils et filles du Congo ne doit couler lorsque le peuple revendique ce qui est constitutionnel, le droit de marcher. C'est aussi à l'endroit de la police. Le général commandant de la police, il demande pardon aux fidèles catholiques de la province pour ce qui s'est passé hier. Vis-à-vis de la communauté internationale, je salue la MONUSCO qui a été présente hier de façon exceptionnelle dans tous les endroits où nos fidèles ont marché.
Au chapitre de réaction concernant la marche de dimanche, nous terminons avec Mbujimaï. Cette marche des chrétiens catholiques du dimanche dernier, en rapport avec cette marche, la commission justice et paix du diocèse de Mbujimaï dénonce l'intervention de ce qu'elle qualifie de milice dans la répression de cette manifestation. Le président de cette structure du diocèse affirme que des personnes non identifiées, ne faisant pas partie de la police nationale congolaise, ont violenté les chrétiens qui progressaient pacifiquement vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Monsieur l'abbé Pierre Kabamba, président de la commission justice et paix du diocèse de Mbujimaï, parle au micro de Chris Mukande.
On a noté la présence de certains éléments, donc une forme de milice sur place qui est en train de taper les chrétiens qui étaient en train d'évoluer vers la cathédrale. Donc ce ne sont pas des policiers, mais une milice au niveau de cette province. Il y avait un général qui était là, qui a dû maintenant accompagner même ces chrétiens-là pour le retourner à Saint-Philippe et qui a dû même gronder cette milice-là qui était en train d'agir. Donc il y a une milice qui est en train d'agir.
Monsieur l'abbé, vous parlez d'une milice ou de la police?
Je parle d'une milice parce que la police est là. Elle est identifiée avec sa tenue. Mais nous avons des jeunes qui ne sont pas des policiers mais qui ont commencé à taper les gens. Donc ça c'est une forme de milice. Pour illustration, ce qui s'est passé sur l'avenue de l'université, au niveau de Tchalamoana. Nos chrétiens avaient suivi la consigne. Ne provoquez pas la police, mais si la police vous attaque, ils se mettent à genoux, ils lèvent les mains, ils commencent à prier. C'est ça qu'ils avaient fait. Et alors on voit des jeunes gens qui sortent, qui commencent à taper. Mais ces gens-là, qui ne sont pas la police, ils viennent de quelle force pour faire ce travail-là? Et là, nous devons être très regardants.
Autre chose à présent, le professeur Huit Mulongo, l'ancien directeur du cabinet de Moïse Katumbi, est libre de tout mouvement depuis hier lundi tard dans la nuit. Il recouvre la liberté après près de 2 ans de détention à la prison de la Kasapa. Il qualifie sa libération de triomphe de la raison et du droit. À sa sortie de l'hôpital où il était admis sous surveillance, il s'est confié au micro de Jean Gandou.
Un cocktail de joie et de tristesse. Quand on a été privé de sa liberté pendant quasi 2 ans, et qu'on la retrouve, c'est quand même la joie. Mais cette joie, cette détente est noyée par une grande tristesse. Au moment où je pense à rentrer chez moi, je ne peux pas oublier que j'ai été amené dans cette chambre par une femme merveilleuse, courageuse. C'est grâce à elle que la MONUSCO s'est mêlée de ma vie qui périssait en prison, parce qu'elle avait pris la décision de lancer un appel à l'humanisme. C'est sa phrase que j'avais entendue. Elle appelait à un peu d'humanisme pour son mari. Eh bien, Jean, au moment où je dois rentrer chez moi, il faut que je me souvienne que nous étions venus à deux ici et que je dois rentrer seul. Où est-ce que je l'ai laissé l'autre? J'ai accompli 3/4 de peine. Il y a déjà plus de 6 mois que mon collectif avait demandé qu'on fasse valoir ses droits. Je crois que beaucoup de circonstances ont fait que le droit soit respecté tant soit peu.
Pour rappel, le professeur Huit Mulongo avait été arrêté pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il avait été condamné à 3 ans de servitude pénale principale par la cour militaire du Katanga. Parlons maintenant de cette nouvelle de la CENI qui poursuit sa campagne de sensibilisation sur le processus électoral. Ce mardi, elle a reçu à son siège une délégation de la plateforme politique de l'opposition Alternance pour la République conduite par le député national Délice Sanga. À l'issue de cet échange, les deux partis ne se sont pas accordés sur l'usage de la machine à voter aux élections du 23 décembre 2018. Des détails avec Askenzi Betayoro.
Visiblement, les démonstrations faites par la CENI pour convaincre ses interlocuteurs sur le bien fondé du recours à la machine à voter n'ont pas abouti aux résultats attendus. Après les récits de l'UNC et du MLC, c'est au tour de l'alternance pour la République de rejeter la machine à voter. Cette plateforme politique juge d'illégal le projet d'utiliser cet outil informatique délicat aux élections programmées cette année en RDC. Délice Sanga, coordonnateur de l'AR.
D'autant que le cadre légal aujourd'hui interdit, nous nous sommes interdits nous-mêmes à recourir au vote électronique. Nous avons fait savoir nos préoccupations à la plénière de la CENI en indiquant clairement notre préférence pour le vote à bulletin papier.
Du côté de la CENI, le langage reste conciliant face aux critiques de parties prenantes au processus électoral. Corneille Nanga.
Les conseils et avis des uns et des autres nous sont les bienvenus. Et nous avons pris bonne des conseils donnés par l'alternance pour la République. La CENI décidera.
Au cours de cet échange, la délégation de AR a aussi été informée des avancées significatives qu'a réalisées la CENI. Pour l'instant, la commission électorale est en plein pied dans les travaux de traitement et consolidation des données pour rendre potable le fichier électoral.
Actualité Afrique Monde.
Et nous allons commencer par Burkina Faso. Plusieurs responsables politiques et militaires ivoiriens de premier plan sont accusés d'avoir aidé ou voulu aider le général Gilbert Diendéré et ses hommes lors de leur tentative de coup d'État à Ouagadougou en 2015. Aucun d'entre eux ne se présentera à la barre dans le procès. Ils sont pourtant suspectés d'avoir joué un rôle majeur dans le putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Parmi les grands absents du procès hors norme qui s'ouvre ce mardi 27 février devant la chambre de jugement du tribunal militaire dans la salle des banquets à Douaga 2000 figurent plusieurs personnalités ivoiriennes de premier plan. Et puis, l'Union pour la majorité présidentielle UMP a remporté une large victoire aux législatives du vendredi 23 février, a ainsi annoncé le ministre djiboutien de l'Intérieur. Les résultats officiels ne sont pas encore connus. Bientôt, 72 heures après le scrutin, les résultats des élections législatives qui se sont tenues le vendredi 23 février à Djibouti n'ont pas encore été officiellement publiés. Mais dès la nuit de vendredi à samedi, le ministre de l'Intérieur par l'intérim, Moumine Ahmed Cheikh, a affirmé que le scrutin a été marqué par une large victoire de l'Union pour la majorité présidentielle, sans en préciser cependant l'ampleur. Enfin, le parquet sud-coréen a requis ce mardi 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'ex-présidente Park Geun-hye, et emporté par un vaste scandale de corruption qui a mis au jour les liens malsains entre le monde des affaires et de la politique. La destitution de Mme Park, 66 ans, avait été confirmée en mars 2017 par la plus haute cour de justice du pays. Cela fait près d'un an qu'elle est en détention provisoire dans cette affaire centrée sur son ancienne confidente de l'ombre, son ami de 40 ans, Choi Soon-sil. Le verdict sera attendu le 6 avril.